À voix nue, Caroline Brouet.
Lilian Thuram, ancien joueur de foot de l'équipe de France. Aujourd'hui, fondateur d'une fondation éducation contre le racisme. Je suis le papa de deux garçons et le mari de Karine Gueux.
Cinquième épisode, changer le monde. Bonjour Lilian Thuram.
Bonjour.
Changer le monde parce qu'on va parler de la dimension politique de votre démarche. Changer le monde aussi parce que je crois que c'est ce qui a présidé à la naissance de la fondation Lilian Thuram, cette envie de changer le monde. Vous nous racontez la genèse, dans quelles conditions ça s'est passé et pourquoi je dis ça.
Alors, c'était lors d'un dîner à Barcelone, chez le consul de France de l'époque, Pascal Brice. Et il y avait un monsieur d'un certain âge à côté de moi, et il me dit « Monsieur Thuram, qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous serez grand ?» Parce que bon, pour lui, je joue au foot, c'est un truc d'enfant, il va falloir devenir sérieux parce que j'étais en fin de carrière. Et donc je lui donne une réponse d'enfant en lui disant « Écoutez, lorsque je serai grand, je vais changer le monde. » Il me dit « Ah bon, vous allez changer le monde comment ?» Ben écoutez, j'irai dans les écoles pour parler du sexisme, du racisme, de l'homophobie, pour faire comprendre aux enfants que tout cela est lié à un conditionnement culturel. Il me dit « Ah bon ?» Et donc, je lui parle un petit peu de mes connaissances, et à la fin de la soirée, il m'a dit « Écoutez, sachez que je suis plus vieux que vous, le monde on ne le change pas. » Je dis, je vais essayer quand même. Et quelques jours plus tard, mon téléphone sonne et c'était ce monsieur, Juan Campmagne. Il me dit, j'ai bien réfléchi à votre sujet de conditionnement. Je me rends compte que moi-même, je suis conditionné dans un sens parce que j'ai certains préjugés que vous m'avez fait tomber lors de ce dîner. Donc, vous avez déjà changé une personne. J'aimerais que vous passiez me voir pour qu'on puisse discuter. Et donc, ce monsieur était directeur d'une très grande agence de publicité à Barcelone et me dit, voilà, moi, je pense que, sincèrement, vous devriez fonder une fondation et vous servir du foot pour que votre discours puisse faire tache d'huile. Et il est devenu le président de la fondation en Espagne. Et ça a commencé comme ça, voilà.
Dans l'épisode précédent, vous nous parliez de ce sentiment de dette que vous aviez à l'égard de personnes du passé, du passé tout court. À côté de la fondation Lilian Thuram, vous avez plusieurs engagements, même si ce terme, je crois que vous ne l'aimez pas beaucoup. Mais il se trouve que vous avez été membre du Haut Conseil pour l'intégration, parrain du collectif Devoir de mémoire, engagé auprès d'Amnesty International, à l'ONU, à l'UNICEF, est-ce que c'est pour vous non seulement une façon d'utiliser au mieux votre notoriété d'ancien joueur de football professionnel, mais aussi est-ce que vous le vivez comme une responsabilité particulière ?
Oui, je pense que lorsque vous êtes adulte, il faut être responsable. Moi, j'ai grandi aux Antilles, et j'avais l'impression justement que les adultes étaient responsables des plus jeunes. Et donc, moi, je me sens effectivement responsable. Responsable de qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants, qu'est-ce qu'on va léguer aux plus jeunes, et quel espoir. Parce que lorsque vous êtes enfant, vous avez besoin d'espoir, et surtout, vous avez besoin de vous sentir aimé. Je reste persuadé que lorsque vous avez ce sentiment d'être aimé, en fait, vous pouvez donner le meilleur de vous-même. Et donc, il faut aider que ça se généralise. Parce que malheureusement, il y a des enfants qui sont déjà enfants dans une grande difficulté.
Vous disiez aussi hier que, au fond, vous étiez peut-être un père, beaucoup plus qu'un activiste, un militant, un père. C'est donc que vous êtes dans une forme de transmission. Transmission à vos enfants, mais transmission aux enfants tout court. Est-ce que vous qui avez aussi reçu une forme de transmission de la part d'un certain nombre de, d'adultes qui ont été parfois vos pères de substitution, vous avez l'impression de passer le flambeau. Est-ce que ce sont ces personnes, ces hommes, ces femmes qui vous ont donné une conscience politique, qui vous ont forgé ce regard? Je pense par exemple au père de votre ami d'enfance, Franck Renard. Je pense au kiné de l'équipe de France, Albert Gall. Vous pouvez nous parler de ces deux figures qui ont beaucoup compté pour vous?
Oui, effectivement, je pense que c'est lié au fait que j'avais pas de papa à la maison. Donc, vous vous imaginez avoir un père qui serait proche de la perfection. Et donc, c'est vrai que M. Renard a été extrêmement important pour moi. Il venait tout le temps me chercher pour m'emmener au foot.
C'était à Avon.
À Avon, alors que c'était pas sur son chemin. J'étais très ami avec son fils, avec Franck. Et il se comportait exactement de la même façon avec son fils Franck qu'avec moi. Dans le don, par exemple, lorsqu'il allait à la buvette, il prenait toujours un sandwich, des boissons pour moi. Et c'est quelque chose qui m'a nourri, en fait. Et je me disais, c'est génial d'avoir un père. Et ouais, c'est quelqu'un qui a été présent, mais qui ne le savait pas. C'est-à-dire que pour lui, c'était naturel. Après, effectivement, Albert Gall, c'est le kiné que j'ai rencontré en équipe de France. Quand je suis arrivé en équipe de France en 94 de mémoire. Et ce qui est assez incroyable, c'est que aujourd'hui, si je dis à mes enfants, tiens, j'ai parlé à votre grand-père, mais ils savent de qui je parle. Par exemple, Kefren, qui fait du foot à Nice, et Albert Gall habite à Nice. Et donc, parfois, je lui dis, mais t'as appelé ton grand-père ou pas? Ou viens, on va voir ton grand-père. Et donc, pour moi, c'est un père, parce qu'effectivement, il m'a éduqué sur beaucoup, beaucoup de choses. Notamment, cette volonté farouche de l'égalité. Cette nécessité de comprendre en fait les mécanismes de domination qui existent dans la société. Il m'a beaucoup éduqué en me parlant d'Angela Davis. C'est quelqu'un d'une très 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 grande générosité. Et encore aujourd'hui, on parle de politique et parfois il est en colère à un point. Donc c'est quelqu'un
plus que vous.
Plus que moi, oui. C'est ce que j'allais dire. Encore
plus. Vous avez expliqué que vous étiez quand même un peu apaisé malgré tout.
Et donc c'est quelqu'un de très important. Et c'est vrai que dans ma façon d'être, la mort est toujours là. C'est-à-dire nous sommes en vie, on profite de la vie, mais la mort va arriver. Et lors de ton passage, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Qu'est-ce que tu vas laisser? Et c'est très important, c'est-à-dire que lorsque nous sommes adultes, je pense, on doit aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on va laisser en héritage à nos enfants? Et je ne parle pas simplement d'héritage financier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va leur laisser? Et moi, je reste persuadé que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes hommes, de jeunes filles qui sont dans une forme de dépression parce qu'ils comprennent très bien que les adultes, en fait, je vais pas être vulgaire, en fait, se sont moqués d'eux, en fait. On a fait n'importe quoi. Et donc, on va leur laisser un monde juste invivable. Et donc, c'est légitime qu'on puisse se poser la question en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que après nous, il y aura des enfants. Après nos enfants, il y aura aussi des enfants. Et donc, je pense que être dans la transmission, ça me paraît être dans la responsabilité. Voilà, être dans la responsabilité, ça me paraît quelque chose d'essentiel. Voilà, fondamental.
Quand vous étiez footballeur, vous êtes aussi l'un des rares à avoir pris la parole comme vous l'avez fait sur de nombreux événements. On vous a entendu sur le match France-Algérie pendant que la Marseillaise a été sifflée, en tous les cas après. Quand les joueurs noirs ont été insultés à Milan, dans l'affaire des sans-papiers de Cachan que vous avez invité au stade, ça a provoqué quelques remous. Et puis dans l'affaire des quotas, des joueurs binationaux, on s'en souvient, c'était en 2011, après une réunion de la Fédération française de football, vous aviez pris position. Ces prises de position politiques, d'ailleurs, vous ont valu une proposition de devenir ministre de la diversité en 2009 par Nicolas Sarkozy, proposition que vous aviez refusée. Mais dans un entretien au Monde, en 2009, la même année, vous aviez quand même laissé entendre qu'un jour peut-être. D'ailleurs, en 2012 aussi, vous aviez participé à un collectif de citoyens, un mouvement avec Stéphane Hessel, Edgar Morin, Michel Rocard, Pierre Larouturou, qui s'appelait le collectif Roosevelt 2012. Est-ce que tout ça fait que, après les deux vies que nous avons esquissées au cours de ces entretiens, pourrait-ce en esquisser une troisième qui serait proprement politique ?
Alors, tout d'abord, je pense que toute vie est politique. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est de la politique. Le fait d'avoir une fondation, c'est de la politique. Toute vie est politique. Mais je ne pense pas que... Il faut dire jamais, hein, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais je ne pense pas que je vais rentrer dans un parti politique, en fait. Mais j'ai conscience de faire de la politique. Et il faut que chacun de nous, nous puissions être conscients de cela. Il n'y a pas de neutralité, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se pensent neutres. Non, il n'y a pas de neutralité. Quand vous n'allez pas voter, c'est un acte politique. Quand vous votez, c'est un acte politique. Quand vous fermez les yeux, ben, c'est un acte politique. Quand vous parlez clair et fort, c'est un acte politique. Et il faut le dire aux enfants que tout est politique, en fait. Tout est politique.
Dans votre démarche politique, est-ce que votre objectif, c'est être reconnu comme noir, avec tout ce que cela charrie, ou bien c'est être reconnu comme humain, au même titre que les blancs, que je mets entre guillemets. C'est-à-dire, est-ce que c'est une affirmation de la couleur, les Yanturam, de la peau, ou bien c'est une disparition de la couleur de la peau, comme le souhaitait par exemple Toni Morrison dans son œuvre magistrale littéraire, ou comme le souhaitent bien d'autres, et par exemple vos maîtres en pensée actuels, comme Achille Mbembe, comme Souleymane Bachir Diagne, qui parlent de devenir humain. Ou alors c'est ce qu'on devienne tous marrons et roses, comme le dit Kefren. Voilà, est-ce que c'est l'affirmation de la couleur de la peau, ou est-ce que c'est la disparition ?
C'est ni l'un ni l'autre. En fait, tout d'abord, c'est une réflexion de ce qui est. C'est-à-dire, pourquoi, lorsque vous êtes une personne noire, vous allez subir le racisme plus qu'une personne de couleur blanche. En fait, d'où ça vient ? C'est questionner, effectivement, cette racialisation du monde. Et à partir du moment où vous allez la questionner, vous allez l'analyser, vous allez pouvoir la dépasser. Mais l'idée de dire aujourd'hui que la couleur de peau ne détermine en rien ce que vous allez être, bah, c'est faux. C'est totalement faux. Je sais bien qu'il y a des personnes qui rêveraient de ça, en disant, oh, écoutez, on ne voit pas les couleurs. Bien sûr qu'on voit les couleurs. Vous savez qu'il y a des personnes qui vont être arrêtées plus souvent que d'autres par la police. Il y a des personnes qui ont moins d'opportunités que d'autres. Donc en fait, il faut juste prendre conscience que le suprémacisme blanc, en fait, a construit le monde moderne. Par exemple, je pense qu'il est important de savoir qu'en France, il y a eu des lois racistes pendant plus de 250 ans. Tous les Français devraient connaître le code noir. Tous les Français devraient connaître le code de l'indigénat. Et le code de l'indigénat se termine dans les années 60. Je pense que c'est apprendre l'histoire pour pouvoir la dépasser. Vous ne pouvez pas faire comme si nous n'étions pas le fruit d'une histoire de la racialisation du monde. Et je reste persuadé que, effectivement, lorsque on aura abordé les choses avec une très grande lucidité, on pourra sortir de ces schémas de pensée. Parce que l'idée, c'est vraiment sortir de ces schémas de pensée. Parce que lorsque on sort de ces schémas de pensée, on peut avoir une analyse de l'histoire, une analyse du présent en tant qu'être humain, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on fait en fait tous ensemble? On va dans quelle direction? J'ai beaucoup de respect pour la politique, mais vraiment, je trouve que c'est essentiel. J'ai beaucoup de respect au départ pour les hommes et les femmes qui font de la politique. Et d'ailleurs, c'est pour cela que lorsque M. Sarkozy m'avait demandé de devenir ministre, pour moi, c'était d'une évidence de refuser, parce que ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est de l'opportunisme, en fait. C'est-à-dire que lui vous propose ça, mais en fait, c'est juste parce que vous appelez Thuram et qu'à un moment donné, vous étiez contre lui. En fait, la politique, c'est quelque chose de sérieux, de noble, parce que ça engage la vie de toute la communauté. Et donc, il faut réfléchir au bien-être de toute la communauté, parce que faire la politique, pour moi, c'est prendre soin des gens. En fait, vous savez, lorsque vous parlez de mes engagements, derrière tout ça, c'est comment on prend soin des gens. Parce que c'est très important. On a besoin de quoi, en fait, l'être humain? Ben, de se sentir aimé, de se sentir protégé, de se sentir accompagné. Et moi, je pense que chacun de nous, nous méritons ça. Il n'y a pas, peu importe votre couleur de peau, votre religion, vos origines, votre nationalité, mais... on a besoin d'être dans un cadre où, effectivement, on va se sentir protégé. Et comment le collectif met en place cette protection des uns des autres, de ceux qui sont plus forts, de ceux qui sont moins forts, de ceux qui sont qui ont un handicap, ben, en fait, qu'on puisse avoir une réflexion commune. Parce que c'est ça, la vie. Ça veut dire que l'être humain a survécu avant tout parce que on a fait en sorte d'être ensemble. D'être ensemble. Ça me paraît... c'est le sens de la vie, en fait. C'est-à-dire, on reste combien de temps? C'est un passage. D'accord? On est là pour très peu de temps. Eh bien, il faut faire en sorte que le temps qu'on va passer, mais qu'on le passe... le mieux possible, en fait.
Vous citez Achille Mbembe. Nous ne cesserons d'être noirs ou blancs que si nous apprenons à devenir humains, d'abord humains et rien qu'humains. Devenir humain, c'est inventer quotidiennement et inlassablement des possibilités de rencontre avec d'autres humains sur la base de l'affirmation selon laquelle nous sommes comme tous les autres. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'angélisme dans votre façon de voir les choses? Vous disiez que dans la réception d'un de vos livres, La pensée blanche, il y avait une forme d'incompréhension face à la réception critique qui a été celle de votre livre, qu'on a parfois accusé d'essentialisation, peut-être accentuée par le fait que vous êtes noir et que vous parlez de la blanchitude, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre forme de remarque qu'on pourrait vous faire, de l'autre côté de l'échiquier politique d'ailleurs, qui est une forme d'angélisme? Est-ce que vous ne péchez pas par angélisme?
Alors, aux Antilles, il y a une figure qui s'appelle le nègre marron. Le nègre marron, c'était l'esclave qui s'échappait pour être libre. Je crois que c'est Harriet Tubman qui disait « J'aurais pu sauver beaucoup plus d'esclaves, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient esclaves. » Donc, le nègre marron, c'est croire en la liberté, croire à une autre vie possible. Lorsqu'il y a une guerre, il y a des résistants. Les résistants se disent « Il y a de la lumière ». Au fond du tunnel, il y a de la lumière. Vous savez quoi? On va atteindre cette lumière parce que la vie sera plus agréable dans cette lumière-là. Et donc, c'est avoir de l'espoir. Et je pense que pour contrôler les gens, il faut faire en sorte de leur faire croire qu'il n'y a plus d'espoir, qu'on ne peut plus rien faire, qu'on ne peut plus rien changer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Et donc, c'est la meilleure façon de contrôler les populations. Et moi, je pense qu'au contraire, il faut se dire, même quand les choses paraissent très compliquées, il y a de l'espoir. Il y a cette capacité pour l'être humain à reconstruire quelque chose de plus agréable.
Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous trouvent donneurs de leçons, qui sont parfois dans votre camp d'ailleurs, qui sont parfois vos amis?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire donneur de leçons?
Vous expliquez comment il faut voir le monde, comment il faudrait qu'il soit.
Je pense que chacun de nous, on a une vision du monde. Ce qui serait triste et grave, c'est de ne pas avoir de vision du monde. Moi, je suis qui je suis parce que j'ai rencontré énormément de personnes, de livres, de films, de documentaires qui m'ont emmené à voir les choses différemment. Mais vous savez, en même temps, peut-être qu'on n'entend pas aussi toutes les personnes qui me disent « Mais monsieur Thuram, c'est très bien ce que vous faites. » Je pense que ça, c'est ça le plus important, en fait. Monsieur Thuram, c'est très bien ce que vous faites. Vous savez, j'ai lu votre livre, ça m'a changé ma façon de voir. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Vous savez, monsieur Thuram, je vais vous dire quelque chose. Si j'avais lu votre livre lorsque j'étais enfant, j'aurais été différent. Parce que je ne savais pas ça. Donc, en fait, vous savez, tout dépend qui parle. Qui parle et dans quel but. Voilà.
Martin Luther King faisait un rêve. Vous avez beau être, je crois, plus Malcolm X que Martin Luther King, quoique, enfin, en vous écoutant, je pense que vous êtes un peu entre les deux. Quel rêve vous faites?
Quel rêve je fais? Que le désespoir ne l'emporte pas.
Lilian Thuram, pourquoi Marcus s'appelle-t-il Marcus et Kéfren s'appelle-t-il Kéfren?
Alors là aussi, c'est pareil. Marcus, c'est lié à Marcus Garvey, qui a aussi compté pour moi lorsque j'ai rencontré par les livres Marcus Garvey. C'était l'idée de dire nous pouvons apprendre à nous aimer en tant que personne noire.
Et donc, qui était Marcus Garvey?
Marcus Garvey, c'est un Jamaïcain. On va dire que c'est un activiste. C'est comme ça qu'on dit, je sais pas. En fait, pour moi, c'est quelqu'un, effectivement, qui a dénoncé fortement le racisme à son époque et qui a essayé de mettre en place des mécanismes pour redonner confiance aux personnes noires.
Et Kéfren?
Et Kéfren, parce que là aussi, lorsque j'étais plus jeune, que j'ai rencontré le livre de Cheikh Anta Diop sur l'histoire de l'Égypte antique, donc des pharaons noirs. Pour moi, c'était très important de donner un nom à un nom Kéfren,
un pharaon.
Ah oui, pour que lui déjà, lorsqu'il arrive au monde, il soit déjà imprégné d'une histoire et d'une connaissance et d'une force qu'on ne peut pas lui enlever parce qu'il le porte en son nom. Et ce nom a été choisi avec un égyptologue qui était mon ami, Alain Ancelin. Et c'est pour cela que je dis que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des personnes qui m'ont éduqué. Et cette éducation-là, effectivement, moi je veux le transmettre à mes enfants, et le transmettre le plus rapidement à mes enfants, pour moi, il y a un moyen très rapide, c'est par le prénom. Parce qu'ils sont obligés de s'intéresser à leur prénom. Et donc, ça veut dire que, en fait, cette connaissance-là va faire en sorte qu'ils vont grandir différemment, et surtout qu'ils vont grandir avec beaucoup plus de force et de courage.
On a commencé ces entretiens avec la première des étoiles noires, qui était Mariana, votre mère. On va terminer ces entretiens, si vous voulez bien, avec une dernière étoile noire qui en rassemble deux. Karine Guillaume-Thuram et Nina Simone. Merci beaucoup, Lilian Thuram.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Nicolas Mathias, réalisation Somanina, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi cut them. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi cut them. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine, we're all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there, we even stop believing in prayer. Don't tell me, I tell you, me and my people just about do. I've been there, so I know, keep on saying, go slow. But that's just the trouble,
too slow.
Washing the windows,
too slow.
Picking the cotton,
too slow.
You're just playing rotten,
too slow.
You're too damn lazy. Where am I going? What am I doing? I don't know, I don't know. Just try and do your very best. Stand up, be counted with all the rest. For everybody knows about Mississippi, goddamn. I mean, you thought I was kidding.
Picket lines.
Picket lines, school boycotts. They try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people and me. Yes, you lied to me all these years. You tell me to wash and clean my ears and talk real fine, just like a lady. You'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but this old country's full of lies. You're all gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. Keep on saying, go slow.
Go slow.
Go slow. That's just the trouble.
Do it slow.
Desegregation.
Do it slow.
Mass participation.
Do it slow.
Reunification. But bring more tragedy. Why don't you see it? Why don't you feel it? I don't know, I don't know. You don't have to live next to me. Just give me my equality. Everybody knows about Mississippi. Everybody knows about Alabama. Everybody knows about Mississippi. Goddamn. That's it.